pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capifoot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Les conflits armés à répétition que la RDC a connus ont plongé des milliers de personnes dans les dénuements, les privant des ressources nécessaires à leur survie. C'est dans ce cadre que le Comité international de la Croix-Rouge a initié des projets agricoles qui contribuent à rétablir les moyens de subsistance des communautés agricoles. Alors comment donc se fait cette relance agricole après une période de conflits? Comment doit-elle se faire? Didier Alunga, le Pacha est agronome assistant au département en sécurité au Comité international de la Croix-Rouge à Kinshasa. Encore une fois, bonjour.
Oui, bonjour, messieurs journalistes.
Alors, comment relancer l'agriculture après une période de conflit? On suppose qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de semences, il n'y a plus d'outils aratoires, et peut-être qu'il y avait des champs qui ont été détruits, et les communautés n'ont plus rien. Et comment arriver à relancer l'agricole dans une telle situation?
Oui, monsieur le journaliste, au fait, effectivement, comme vous le dites, les contextes sécuritaires dans lesquels s'est plongé notre pays depuis plus d'une décennie fait que, effectivement, dans beaucoup de zones, les populations quittent leurs milieux d'origine suite à des conflits, comme on dit. Et c'est dans ces cadres-là, comme vous l'avez dit, le CICR essaye de relancer cette production agricole à travers un certain nombre de projets. Alors, pour commencer, je voudrais d'abord vous parler de nos bénéficiaires. Qui sont les bénéficiaires des projets agricoles avec le CICR? Vous voyez, lorsqu'il s'est produit un conflit ou une situation de violence armée, nous avons des communautés qui se déplacent. Ça, c'est la première catégorie des bénéficiaires, les déplacés. La deuxième catégorie, ce sont les communautés d'accueil. Donc, ces gens, les familles qui accueillent celles-là qui se sont déplacées suite au conflit. La troisième catégorie de bénéficiaires, ce sont les retournés. Donc les gens s'étaient déplacés. Une fois que la situation se calme un tout petit peu dans leur milieu, ils regagnent leur village. Donc c'est là on les appelle des retournés et ils sont notre troisième cible. Et enfin, dans des milieux où il se passe des conflits, nous avons des résidents vulnérables. Et c'est là, on décrit ces différentes catégories, ces différents groupes de population suite à des études, des évaluations sont faites sur le terrain pour identifier les besoins, pour catégoriser les bénéficiaires. Et où sommes-nous, en fait, en République démocratique du Congo? Comme je disais, nous sommes au Nord Kivu.
Oui, avant d'y arriver, dites-nous, comment relancer l'agriculture après une période de conflit? Comment doit se faire la relance agricole?
Voilà, après une période de conflit, supposons que les gens s'étaient déplacés et ils retournent, par exemple. Je parle de retourner.
Oui.
L'équipe CICR descend sur le terrain, mène des évaluations. On identifie d'abord le nombre. On doit savoir l'effectif de ménages concernés. On doit étudier est-ce qu'ils ont accès à la terre. On va étudier quelles sont les cultures qu'ils pratiquaient avant les conflits. Quels sont les outils qu'ils utilisaient. Dès lors qu'ils retournent, qu'est-ce qu'ils possèdent par rapport à tout ça? Et c'est à partir de ça qu'on se décide ensemble avec la communauté. Voilà, vu ça, nous allons pouvoir vous apporter par exemple du haricot. Parce que c'est ça votre culture de base, selon l'ordre d'importance que les bénéficiaires même nous donnent. Nous allons peut-être vous apporter des boutures de manioc. Nous allons peut-être vous apporter des semences de maïs. Et à cela, on ajoute des outils. La houe, principalement, qui est la plus utilisée.
Alors, dès lors, et là, on donne à la communauté ou on donne à chaque famille
Voilà. Effectivement, dès lors qu'on a identifié le nombre de ménages concernés, le nombre de familles concernées dans le milieu, on procède aux enregistrements. On enregistre ces ménages-là. Ménage, ça veut dire papa, maman et les enfants, ou ça peut être une famille d'orphelins, ou un veuf ou une veuve. On les enregistre, nous avons des listes. Et puis on organise tout ce qui est l'aspect logistique. Donc on doit acheter ses semences, on doit organiser le transport par des camions, on apporte sur le terrain et chaque ménage enregistré reçoit son kit. Si c'est du haricot, on peut se dire par exemple, suite à l'accès aux champs, ils ont l'accès par exemple au quart du hectare ou ceci, voilà, vous aurez 15 kilos de haricots, 25 kilos de semences d'arachide par exemple. Voilà. Et ces ménages-là, ils sont briefés sur les techniques des cultures.
Culturelles.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des ingénieurs qui sont là pour les accompagner? Parce que, c'est pas, est-ce que tous ces paysans-là sont d'abord des agriculteurs?
Effectivement, il y a des ingénieurs agronomes au sein même du CICR. Au Nord Kivu, nous en avons 5. Au Sud Kivu, nous en avons 5 aussi. Et ce sont les ingénieurs qui accompagnent ces populations dans les formations techniques, les suivis de tout ce qu'on distribue comme culture. Et même après, on retourne sur le terrain pour voir est-ce que les quantités que les gens ont reçues, ils ont réellement tous aimé, est-ce qu'ils entretiennent leurs champs, et à la récolte, on y retourne.
Voilà, est-ce que vous avez un cas, par exemple, dans une région de l'Est du pays où vous avez déjà eu à expérimenter ce projet?
Oui, il y a beaucoup, beaucoup de cas, comme je disais. Hein, au Nord Kivu, par exemple, nous avons expérimenté le projet de manioc, hein, que ce soit dans le Rutshuru, dans le Walikale, le Masisi et même au sud de Lubero. Et donc, par rapport à l'approche, hein, je voudrais d'abord vous parler un tout petit peu de l'approche qu'on utilise dans la relance agricole. Nous utilisons deux approches. Il y a l'approche qu'on appelle l'approche associative. Ça veut dire quoi l'approche associative? Donc, dans une région, on arrive, on se rend compte qu'il y a effectivement des problèmes agricoles après une évaluation. Nous essayons de voir est-ce que la culture concernée par le problème en question est-elle disponible en quantité déjà, les semences de bonne qualité? Est-ce que les gens ont suffisamment des notions sur les techniques culturales? Si c'est fait que, par exemple, pour le cas du manioc, on n'a pas toujours des très très grosses quantités au début. Et vous savez, en agriculture, l'introduction de nouvelles spéculations dans une zone demande quand même un certain temps d'observation.
Est-ce que ça va? Est-ce que dans cette partie-là, le manioc est souvent la culture du manioc est pratiquée?
Oui, oui, oui. Dans notre pays, dans toutes les parties où on travaille, que ce soit à Walikale, que ce soit à Masisi, que ce soit à Rutshuru, ou même aussi Lubero, le manioc est principalement pratiqué par la majorité des communautés. Alors, je disais, nous faisons l'approche associative, c'est-à-dire nous regroupons les gens en association, nous apportons les boutures des maniocs. Les membres de l'association suivent une formation sur les techniques culturelles, ils produisent les boutures des maniocs en grande quantité, que le CICR vient ensuite récupérer une partie et redistribuer à des communautés. Ça, c'est la première approche qu'on appelle associative. La seconde,
vous donnez des boutures et après, vous allez les récupérer pour les redistribuer.
Voilà, donc nous prenons, supposons, 15 associations. On dit, nous avons 15 associations dans le territoire de Walikale, par exemple, réparties dans différents villages sur un axe. Ils reçoivent les boutures, ils reçoivent les outils, machettes ou limes et tout ce qu'il faut suivre avec.
Et vous ne donnez pas des tracteurs?
Non, ne donnons pas les tracteurs. Nous travaillons avec des paysans déjà. Les zones sont difficilement accessibles par rapport à notre mandat. Donc, nous limitons vraiment à ce qu'on appelle la relance de la production. Alors, ils reçoivent ces outils, tous ces intrants, comme on dit. Après, ils suivent une formation sur les techniques culturelles du manioc. Les membres de ces associations-là. Après, on leur donne une petite prime de motivation hein, pour qu'ils puissent bien entretenir les champs. À la récolte, sur les 100% de la production des boutures seulement, le CICR récupère 70%. Les 30% restent aux membres de l'association parce qu'eux aussi, ils ont besoin de pouvoir planter dans leur champ. Les 70% que le CICR récupère, les redistribue par la suite à des ménages. Ça, c'était la première approche associative. La seconde, qui est l'approche distribution directe aux ménages, comme on dit, on peut arriver dans une situation d'un conflit. Par exemple, on a fait une grosse distribution à Rutshuru dans la zone de Busanza l'année passée, en 2014, au mois de septembre. Suite à un conflit, les gens avaient fui, après ils sont retournés. Le CICR va mener une évaluation et on avait constaté au fait là-bas qu'il y avait un problème de semences de haricots et de maïs. C'est ça les cultures de base là-bas, prioritaires. Et quand les gens fuient, ils sont complètement décapitalisés, les champs sont soit pillés, soit ravagés par l'herbe et tout ça. Ils sont rentrés, on a enregistré jusqu'à 6100 ménages. Ces ménages-là, vu qu'ils avaient besoin des semences de maïs et des haricots, on a fait la prospection sur les terrains. Est-ce qu'on a des fournisseurs, des exploitants qui peuvent nous fournir ces semences-là, en quantité voulue? Quand c'est OK, on en a en quantité, on procède à des distributions directes. Donc chaque ménage enregistré reçoit son kit de semences et outils. Et il met directement dans son champ. Donc ce sont les deux approches que nous mettons en place en RDC.
Comment relancer l'agriculture après les conflits? Didier Alunga Lupacha est agronome assistant au département de sécurité à la CICR à Kinshasa. Appelez pour participer au 081 890 63 94. Nous parlons de la relance agricole après une période de conflits.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Comment relancer l'agriculture après dans une zone de conflit? Alors parlez-nous maintenant des techniques culturales qui sont utilisées pour que l'agriculture soit relancée et qu'on ait rapidement une bonne production. Est-ce que vous recourez à l'utilisation des engrais? Est-ce que comment ça se passe?
Voilà, le recours aux engrais, nous ne voulons pas vraiment prôner cette pratique. D'abord, pour autant que la plupart des zones dans lesquelles on travaille, hein, en tout cas c'est des zones encore assez fertiles, donc les gens peuvent arriver à produire suffisamment dans des conditions tout à fait traditionnelles, sans ajout d'un quelconque type d'engrais. Mmh. Voilà, parlant par exemple de la production du manioc. Lorsqu'on va sur le terrain, qu'est-ce qu'on constate? C'est que chaque communauté, dans chaque contexte de notre pays, les gens ont des pratiques couramment utilisées. Vous rencontrez par exemple à Olikale, nos agriculteurs, ils plantent des boutures de manioc de façon très très serrée, oubliant que par moment il se crée une concurrence entre les plantes. Vous avez dans d'autres zones la notion de sarclage, ça veut dire...
Ça veut dire quoi? Ils font l'association des cultures?
Oui, ils font non seulement l'association des cultures, manioc, un peu d'arachide dedans, un peu de courge dedans, un peu de riz dedans. Parce que pour les paysans, il était dit, si telle culture rate, j'aurai telle autre. Ou soit, je peux récolter progressivement telle culture et l'autre va suivre. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, ça peut être, par exemple, comment il le plante déjà.
Mais quels sont les types de cultures qu'on peut associer dans un champ? Voilà. Ou qu'on ne peut pas associer?
Quand vous avez, par exemple, la culture de manioc, vous pouvez mettre un peu d'haricots dedans. Parce que vous voyez, les manioc, on récolte les racines, les tubercules, tandis que les haricots, on récolte la partie aérienne. Ça peut se faire. Mais...
Association manioc... Haricots, ça peut marcher.
Ça peut marcher. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que le manioc ne peut pas être planté, par exemple, sur les mêmes écartements que vous pouvez planter du maïs ou de l'arachide. Donc, il y a un certain nombre de
normes. Quels sont les écartements à respecter?
Pour le manioc, nous plantons sur le mètre. Donc, une bouture, après un mètre, vous mettez une autre bouture. Que ça soit en ligne, que ça soit en horizontal comme en vertical. Donc, chaque bouture occupe un mètre carré, en principe. Et là, vous avez un bon développement végétatif et vous avez aussi la possibilité d'avoir des très, très gros, des gros tubercules par la suite.
Un auditeur en ligne, Clément, depuis Calémy. Bonjour, Clément.
Oui, bonjour. Moi, c'est Kayumba Clément, student depuis Calémy.
On vous écoute.
Oui, je voulais dire ceci. Si il rentre, par exemple, il vient de rentrer dans la guerre, après la guerre, ils vont recommencer leurs travaux. Ils vont prendre toutes choses, donc tous les outils pour qu'ils puissent recommencer leur travail de cultiver les choses comme il faut. Ils ne peuvent pas rester comme ça. Et la Croix-Rouge aussi doit se mettre en compte pour qu'elle puisse les aider. C'est là que je voulais parler.
D'accord, merci. Donc, vous dites que lorsque les gens retournent, ils arrivent, ils n'ont plus rien, ils ont besoin d'être aidés. D'abord, je crois que la première condition, c'est l'accès à la terre. Comment aider ces gens, peut-être qui ont tout perdu parce qu'il y avait la guerre et qui retournent, peut-être qu'ils trouvent plus leur maison, ils n'ont plus les champs. Alors, comment faciliter l'accès à la terre?
Voilà, comme venait même de le dire notre intervenant tout à l'heure, la plupart de nos communautés rurales vivent principalement de l'agriculture. Ça, c'est vraiment la base de leur économie. Et donc, lorsque les gens avaient fui leur milieu suite à un conflit, dès qu'ils regagnent leur milieu, la première tendance, c'est de voir comment rapidement relancer l'agriculture. C'est ça qui donne à manger, c'est ça qui peut donner un peu plus de production. On peut vendre au marché, on rachète du sel, de l'huile et autre chose. Et comme vous avez dit, la première condition, effectivement, c'est l'accès à la terre. L'expérience que nous avons, en tout cas dans presque toutes les zones où l'on travaille, quand même, dans notre pays, c'est que les gens n'ont pas beaucoup de problèmes pour accéder à la terre. Nous avons des terres qui appartiennent à des familles, depuis les ancêtres, ça se transmet comme ça de père en fils. Et il y a aussi d'autres contextes où les gens, par exemple dans certaines parties du Massissi, hein, vu le nombre élevé, la densité de la population, les éleveurs et tout ça, ils se posent par moments des petits soucis pour accéder à des grandes superficies. Ça, c'est vrai. Mmh. Et les communautés trouvent toujours des solutions. Ça veut dire quoi? Vous avez un ménage, une vieille dame qui cherche un open de terre pour cultiver. Elle s'organise, elle s'arrange avec le propriétaire de la terre. Ça se fait régulièrement. Donc, elle sera obligée de payer quelque chose en retour. Vu qu'il n'y a pas de l'argent en espèces, il y a des calculs qui se font.
Donc, elle va payer en nature.
Elle va payer en nature. C'est-à-dire, je t'ai fait mon 30 mètres sur 30. Voilà, tu mets ton haricot dedans. Dès que tu récoltes, voilà la grandeur du bassin que tu me donneras en haricots à ta production. Et on te laisse tranquille pendant toute la saison. Ça, c'est fréquent dans la plupart des zones. Mmh. À part, bien sûr, quelques aisés qui peuvent soit payer directement en nature, mais c'est en espèces. Mais c'est souvent en nature, pour ceux-là qui n'ont pas accès à la terre.
Voilà, la première condition, le premier élément pour relancer l'agriculture après le conflit, c'est l'accès à la terre. Le deuxième élément, est-ce qu'on va parler de la fourniture des semences?
Voilà, la première chose, c'est l'accès à la terre. Deuxième élément, c'est avoir accès à la semence. J'ai la terre, mais je mets quoi dedans? Il faut avoir accès à la terre. Et souvent dans
la semence.
Et souvent dans la plupart des zones, lorsque les gens retournent comme ça, le marché il est presque vide en termes de semences en tout cas. Et là les populations souffrent. Il faut aller dans les grandes zones, par exemple dans les chefs-lieux du territoire pour acheter la semence. Mais où trouver l'argent pour acheter cette semence, c'est encore un autre défi. Et c'est là que nous les CICR, on essaie d'apporter notre soutien. On évalue les gens, on voit voilà, vous avez accès à la terre, mais qu'est-ce qui vous manque? Les semences, c'est peut-être là où aussi.
Et est-ce que vous êtes au travail en collaboration avec l'INERA pour fournir des semences de qualité?
Effectivement. Donc, une fois que nous, on a réussi à faire nos opérations d'évaluation, d'enregistrement de nos bénéficiaires, on revient à Goma, Bukavu, Kisangani, Lubumbashi et partout ailleurs, on discute avec l'INERA pour voir où on obtiendrait ces semences-là de qualité. On fait même des petits contrats avec les agents de IPAPEL, nos inspections provinciales de pêche et agriculture et élevage, qui nous donnent des agents pour faire les suivis auprès des fournisseurs potentiels. On voit les entrepôts de ceux-là qui produisent des semences, on fait les tests de germination, et le SENASEM nous fournit des certificats de validité de ces semences-là. Et puis sur le terrain, lorsqu'on travaille avec des associations, par exemple, nous devons assurer un suivi permanent. On essaie de contacter aussi certains agents de IPAPEL qui sont basés dans différents territoires. On leur donne aussi des petits contrats. Ils nous aident aussi sur le terrain à faire les suivis auprès de nos bénéficiaires.
Voilà, nous avons en ligne Jean Sadiki de Bukavu. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je vous présente mes meilleurs vœux à notre invité.
Ok, merci Jean. Merci quelle est votre question?
Oui, je m'appelle Sabi Kijan, je vous appelle à partir de Bukavu. J'ai une petite préoccupation à poser à notre invité.
Oui, on vous écoute.
Par exemple, dans mon territoire d'origine, précisément dans le territoire de Shabunda, plus particulièrement dans les villages qu'on appelle les Lulingu, là où il y a les activités de CICR. Alors, dans cette zone-là, il n'y a pas la population, soit la communauté de Lulingu n'a pas la culture de créer des associations. Est-ce que notre invité peut nous proposer, ou soit quelles sont les stratégies qu'on peut mettre dans cette zone-là pour que cette communauté-là, ou soit cette population-là, soit bénéficiaire de ces boutiques de manioc, en fait, qu'il améliore leurs conditions sanitaires, surtout leurs conditions alimentaires. J'ai bien, je vous remercie.
Merci Jean Sadiki. Didier Alunga.
Oui, merci messieurs l'intervenant pour la préoccupation. Au fait, ce que notre intervenant vient de donner comme préoccupation fait effectivement partie des grands défis que nous rencontrons dans certaines zones où on intervient. Il parle effectivement de Shabunda, le territoire de Shabunda à Lulingu. Nous avons effectivement un certain nombre de projets là-bas. C'est pas la première zone où on rencontre ces problèmes. Il en existe plusieurs.
Les gens n'arrivent pas à constituer
les gens n'ont pas la culture même de travailler en association.
En association.
Quand vous comparez, par exemple, au sud Loubero, tout ça, vous trouvez que la notion association, là, ça existe vraiment. Ça existe. Vous arrivez, les gens ont des statuts, tout ça, des règlements d'ordre intérieur, ils travaillent déjà depuis longtemps en groupe. Par contre, il y a dans les zones telles que Chabunda Lingu, comme je viens de le dire, on a ces problèmes. Et lorsqu'on fait l'évaluation, comme je vous disais, parfois, d'abord, Chabunda Lingu, c'est tellement enclavé que si vous trouvez 500 000 ménages, 2000, c'est pas évident de prendre des boutures, c'est pas des Bukavu et d'amener là-bas en grosse quantité. Donc, il n'y a que des avions qui vont là-bas. Donc, l'option, c'est effectivement l'approche associative. Regrouper les gens, travailler avec, pour qu'ils puissent produire suffisamment. Et c'est cette récolte, cette production que nous, ensuite, on va redistribuer à la communauté locale. Alors, le travail qu'on fait, effectivement, c'est la sensibilisation. On discute avec les gens.
Voilà. Et pourquoi les gens n'arrivent pas à travailler en association?
Je ne sais pas s'il faut que je dise c'est culturel ou c'est manque d'opportunités ou quoi je pense. Lorsqu'on les sensibilise, effectivement, il y a des zones où on a de très bons résultats. Par exemple, dans les Walikale. Au début, vous arrivez dans la zone, les gens n'en ont pas, ils n'ont pas vraiment la notion. On les sensibilise, on les regroupe, on leur parle de l'intérêt de travailler en groupe. On leur parle de la problématique qu'ils connaissent dans leur milieu. Que s'il faut travailler en groupe, voilà la solution qui peut arriver. Et par moments, ça réussit. Et les gens travaillent en groupe, ils produisent, ils ont cette petite motivation, tout ça. Mais il arrive aussi, bien sûr, parmi les défis, les problèmes qu'on a par la suite, c'est que il y a des groupes qui se créent juste par intérêt. Et quand nous partons, tout de suite après, ils lâchent. Et donc, ça prend du temps. C'est pourquoi, d'ailleurs, je vous ai dit, nous utilisons les agents de l'État, IPAPEL, pour qu'ils continuent à nous aider, eux qui sont permanents dans la zone, sensibiliser les gens à comprendre que travailler en groupe, ça donne un plus.
Bien, on dit souvent que l'union fait la force. Évariste nous appelle des Kalemi, dans la province du Katanga.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteur, compositeur, interprète, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Comment relancer l'agriculture après une période de conflit? Évariste de Kalemi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole.
Quelle est votre question?
La question est la suivante. Est-ce qu'en dehors des échanges communautaires, par rapport aux produits ivriers que les retournants ou soit les déplacés sont en train de bénéficier, est-ce que les retournants ont encore l'accès de bénéficier d'autres produits tels que de la farine, d'huile ou soit du sel, ainsi de suite? Tel que je l'avais vécu quand j'étais pour la première fois à Nyuzu, il y avait des ONG qui distribuaient aussi à Saint-Jean des déplacés, ils les distribuaient de la farine et du sel ainsi que d'huile et d'autres catégories de produits vivriers. Est-ce que les déplacés ont l'accès à ces produits de vivres?
Bien, merci Évariste. Didier Alunga.
Oui, merci beaucoup pour la préoccupation. Au fait, nous nous sommes attelés à parler de l'agriculture vu que c'était le thème du jour. En fait, le département de sécurité économique du CICR, dans ses interventions, a en fait deux types, deux types d'interventions. Nous avons ce qu'on appelle les interventions de secours, d'urgence. Lorsque les gens se sont déplacés, ou soit lorsqu'ils sont retournés, on fait des évaluations, ça c'est le mode, la procédure habituelle. À l'issue des résultats des évaluations, on peut effectivement constater que voilà, ces communautés qui se sont déplacées ont un problème d'accès à la nourriture. Le CICR donne de la nourriture aux communautés. Oui, on distribue de la farine, on distribue du haricot.
Ça, c'est dans une situation humanitaire d'urgence. On peut le faire.
Principalement d'urgence.
D'urgence.
Mais ça arrive aussi dans des contextes de retournée. Donc les gens avaient fui, ils sont rentrés. Je vous ai parlé des Routchour ou à Boussanza, les 6000 quelques ménages. Ils s'étaient déplacés vers Goma et puis ils sont rentrés. La situation était tellement critique que On s'est dit, donner seulement des semences, les gens peuvent manger des semences. C'est de la nourriture, les haricots, l'arachide, le maïs, ils peuvent manger. Mm-hmm. Par moment, on accompagne ces semences par ce qu'on appelle une ration de protection des semences. Donc les gens, ils reçoivent d'abord les semences, on dit, bon, alors, partez cultiver, mais pour avoir de la force, pour avoir la possibilité de patienter.
On leur donne aussi, oui.
Voilà, de patienter la récolte, on leur donne aussi de la nourriture. Oui. Ça se fait partout, dans la plupart des contextes.
Sinon, ils vont utiliser les semences.
Oui, certains utilisent, ils en mangent.
Oui, ils en mangent. Oui. Et Sokoa nous appelle de Kindu, dans la province du Maniema. Bonjour. Et Sokoa, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question, Et Sokoa?
Ok, j'ai presque deux questions à poser à l'invité. Ok, la première question est, s'il s'agit d'un conflit intercommunautaire, parce que nous faisons encore des travaux partout, et donc des voyages entre deux conflits, conflits qui se trouvent entre deux groupements, parce que compte tenu aussi donc des limites. Il y avait même des sacs qui étaient coulés entre ces deux groupements-là, entre deux chefs. Là, ils se sont, n'est-ce pas, donc, disputés entre, concernant, n'est-ce pas, donc, les limites, n'est-ce pas, donc, des groupements. Mais là, je voulais poser la vérité. Quand il s'agit d'un conflit entre deux groupements, des chefs de différents groupements, bon, il y a encore des problèmes du sang qui étaient coulés entre ces deux groupements. À ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, la deuxième question.
Bon, et Sokoa, nous parlons beaucoup plus de la relance agricole après une période de conflit. Donc, on suppose qu'il n'y a plus de conflit. Maintenant, on travaille pour relancer l'agriculture.
Oui, c'est ça le conflit, parce qu'il y a entre des gens, des groupements qui ont des conflits de limites concernant, n'est-ce pas, donc, de l'agriculture.
D'accord, on a compris. Deuxième question.
Ok, la deuxième question. Que l'invité a parlé, n'est-ce pas, donc, du mélange de différentes semences dans un champ. Maintenant, quand il y a un échec, cela dépend du climat ou bien dépend seulement de cette association du mélange de ces produits-là. Merci.
D'accord, merci Sokoa Dekindou. Moïse, vous êtes à Fataki Yanitouri. On vous écoute, bonjour.
Ah, bonjour.
Quelle est votre question, Soko, à Moïse?
Oui, j'ai deux petites préoccupations par rapport au sujet du jour. La première préoccupation est celle-ci. J'aimerais savoir, monsieur l'éditeur, tu avais tout à l'heure là, par exemple, du tout de manioc, où il doit espacer le du tout de plutôt d'un être, à ton chef du tout. Alors, j'aimerais savoir si. C'est quelle sorte de boutique, parce que ici chez nous, je vois qu'on espère faire tout juste des 2000, même des décimètres tout juste. Alors j'aimerais savoir si le boutique est m'éclaircit là-dessus.
Vous voulez qu'il vous parle de type de bouture à utiliser?
Quelle est la meilleure idée que la semence de bouture peut être améliorée? Et quelle est la bouture là, dès qu'il a parlé que doit espacer bien être là?
Voilà, merci Moïse. Monsieur.
Et la deuxième.
Oui, deuxième question.
La deuxième préoccupation est celle de savoir si la sincère peut aider aussi. Là, il n'y a pas de conflit parce que chez nous, par exemple, si le conflit s'était terminé il y a plus ou moins déjà 5 ans, la difficulté est déjà relâchée, le différent cultif est déjà relâché. Est-ce que la sincère peut venir aider aussi les gens? Tout le fait qu'ils ne viennent pas à peine de ce type de conflit là.
D'accord, merci. Didier Alunga.
Voilà, merci beaucoup pour les préoccupations de nos deux intervenants. Le premier intervenant a parlé tout d'abord du
conflit de groupement,
de conflit entre deux chefs de groupement.
On a la limite couler, territoriale, oui.
Voilà, donc tout d'abord j'aimerais rappeler ici à nos auditeurs que le CICR a comme mandat d'apporter du soutien, de l'assistance aux communautés victimes de conflits et autres formes de violences armées. Ça, c'est vraiment globalement le mandat du CICR. Mmh. Et donc, ça dépend. S'il y a eu conflit et que, par exemple, les gens se sont tirés dessus, ça a créé des déplacements des communautés. Et puis, entraînant des pertes des cultures, hein, parce que nous sommes en tout cas dans le sujet du jour, c'est la relance de la production agricole.
C'est ça.
les gens ont perdu leurs semences, les gens ont perdu leurs outils agricoles, les champs ont été pillés. Ben, tout dépend, comme je vous disais, des résultats des évaluations. Donc, nos équipes vont sur le terrain. Ils constatent qu'effectivement, bon, c'était un conflit armé, les gens se sont déplacés. Ils ressortent les conséquences qui s'en ont suivies. Et voilà, on peut proposer. Il y a dans la plupart des zones, on intervient, c'est effectivement suite au conflit. Donc, grèvement, voilà la réponse.
Bien, et puis, il dit, s'il y a un mauvais rendement, vous avez donné des semences, vous avez donné des outils aratoires, mais on se rend compte qu'après, le champ donne un mauvais rendement. Qu'est-ce faire à ce moment-là?
Voilà, là, j'aimerais un peu comprendre, parlant du mauvais rendement, c'est après la distribution des semences.
Après la distribution, bien sûr, oui.
Voilà. Donc, l'échec d'une production agricole est tributaire pas d'un seul paramètre, mais de plusieurs. Les gens peuvent recevoir des semences. Ça dépend à quel moment ils ont reçu les semences. Est-ce que, déjà, le CICR, en apportant ces semences, a tenu compte de la bonne saison? Est-ce qu'on était vraiment à la bonne période culturelle? Ça, c'est du côté CICR. La qualité de ces semences-là, lorsqu'on fait les achats déjà des semences, est-ce que c'était des bonnes semences, bien conservées, récoltées depuis combien de temps? Et par la suite, du côté de nos bénéficiaires, est-ce qu'en recevant les semences, ils les ont semées à temps voulu aussi, hein, c'est-à-dire en respectant la saison? Les pratiques qu'ils ont mises en place, est-ce que les semences ont été semées sur des bons écartements? Est-ce que les champs ont été sarclés? Vous voyez tous ces paramètres-là. Et aussi, il y a d'autres paramètres qu'on ne peut pas nous tous contrôler. Ça peut être les changements climatiques. Donc, la saison avait bien commencé, les pluies ont commencé, et tout à coup, c'est la sécheresse qui s'annonce, et les cultures périssent dans les champs. Donc, il y a pas mal de paramètres.
Il y a aussi des maladies qui attaquent.
Il y a aussi des maladies, effectivement. Ouais. On constate dans certaines zones, il y a des maladies qui peuvent attaquer du maïs. Actuellement, on a un problème de maladies au sud de l'Oubérou. Vous plantez, vous semez vos maïs, on n'arrive pas à la production. Donc, il y a pas mal de contraintes en agriculture et parfois c'est assez complexe.
Mais est-ce que le CICR est là pour accompagner ces paysans jusqu'à la récolte?
Oui, normalement, lorsque nous distribuons les semences, avant même la distribution, lors des évaluations, nous nous rassurons que déjà nous sommes dans la bonne période, la saison d'abord. Nous nous rassurons. Est-ce que les semences qu'on va donner aux gens vont répondre par rapport à leur écologie? Et on accompagne, on fait le suivi après distribution jusqu'à la récolte.
D'accord. Alors, et il y a aussi une question par rapport, Moïse a parlé des boutures, hein, où est-ce qu'on peut trouver des boutures améliorées, les boutures de bonne qualité?
Ouais. Il a parlé des boutures, il m'a dit que dans son milieu, les gens utilisent par exemple des espacements de quelques décimètres, tout ça. C'est tout ça que j'ai dit, c'est un problème de connaissance des pratiques culturelles. Parce que dès lors que vous serrez trop les boutures sur des courts écartements, je disais, il y a un problème de concurrence entre les cultures même, entre deux plants de manioc, il y a des concurrences parce que les racines doivent trouver à manger dans le sol. Et ça se sert, c'est la concurrence et vous avez des tubercules trop amoindris. Parlant de variétés, donc nous avons des institutions qui sont en charge des recherches dans notre pays. Il y a l'INERA qui travaille avec d'autres institutions internationales comme l'ITA et autres.
On peut trouver les boutures améliorées, qui résistent
aux maladies. Il faut que ce travail-là pour mettre en place un certain nombre de variétés de boutures. Nous avons actuellement Sawa Sawa, nous avons la variété Mayombe,
Obama,
et nous avons la variété qui sont très très appréciées, par exemple au sud Kivu, la V8, qui est une variété de manioc amer. Et celles-là sont des variétés qui résistent à la maladie qu'on appelle la mosaïque africaine du manioc, qui est une maladie apparue dans notre pays depuis les années 2000-2001 et qui a dévasté en tout cas une bonne partie de nos variétés locales. Ce que j'aimerais dire aussi à notre auditeur, c'est que les semences dégénèrent après un certain nombre d'années aussi. Ça, il faut qu'on tienne
compte. Toutes les semences.
Toutes les semences. Donc à un certain moment, dans des contextes assez organisés, on renouvelle les semences dans les pays. Donc vous pouvez avoir votre manioc que depuis les grands-parents à utiliser, les mêmes boutures, les mêmes produits jusqu'à vous, dans les mêmes champs, finalement, la fertilité du champ s'épuise. Vous voyez, avec la répétition de la même culture et les mêmes semences. Donc ça, c'est parmi les difficultés que nous avons.
Voilà, et Fatah qui a dit, est-ce que là-bas, il n'y a plus de guerre aussi chez eux? Voilà. Plutôt les derniers auditeurs, Moïse de Fatah qui est en Ituri. Il dit, est-ce que le CICR ne peut pas venir aussi les aider là-bas, distribuer des semences et des outils aratoires?
Voilà, effectivement, il a posé cette question, hein, il n'y a plus de conflit. Est-ce que le CICR pourrait aussi y aller? Vous savez, lorsque les humanitaires travaillent, particulièrement nous les CICR, il y a ce qu'on appelle les priorités que l'on se fixe par rapport à notre mandat. De deux, il y a aussi le moyen. Le moyen en termes de RH, en termes de finances, tout ça. On ne peut pas être partout en même temps. Voilà brièvement. Là.
Donc pour l'instant, vous êtes concentré au Nord Kivu.
Pour l'instant, nous sommes au Nord Kivu, oui. Au Sud Kivu et aussi en province du Katanga.
Et dans la province du Katanga.
Ouais.
Bien, merci Didier Alunga Lupacha. Je rappelle que vous êtes agronome, assistant au département sécurité à la CICR à Kinshasa. Peut-être qu'il y a d'autres agriculteurs qui sont intéressés, mais est-ce qu'ils peuvent, il y a un numéro par lequel on peut joindre la CICR?
Oui, j'ai pas le numéro de CICR en tête, mais moi j'ai le mien.
C'est pas... Allez, ah oui, allez-y.
Le
problème.
Mien c'est le 081 16 65 251.
Didier Alunga Lupacha, merci et bonne journée.
C'est moi qui vous remercie, messieurs journalistes.